Octave Mirbeau, des artistes, les portraits du siècle. Cette exposition, organisée aux Beaux-Arts, est vraiment magnifique, et l'on ne pouvait trouver rien de mieux, quelques jours avant le salon, pour nous montrer, à côté de la peinture de fabrique d'aujourd'hui, ce qu'a pu être la peinture française à diverses époques, et quelle fleur d'art superbe elle a poussé. Il y a bien des chefs-d'œuvre parmi les 424 tableaux exposés, et des chefs-d'œuvre immortels. Un volume ne suffirait pas pour en parler comme il conviendrait. Je suis donc forcé de me restreindre et de renvoyer mes lecteurs à cette exposition elle-même, me sentant incapable, en un si court espace, d'en dégager même l'essence, même la quintessence. Il n'y a pas d'art plus difficile et plus profond que l'art du portrait. C'est qu'il faut être non seulement un peintre pour reproduire les traits du visage d'un être quelconque, mais encore un psychologue et un poète pour traduire son âme. Et ce que cette âme diffuse sur une physionomie de marques intellectuelles, ce vêtement de la pensée insaisissable à bien des yeux. La fantaisie et l'imagination ne peuvent plus courir à travers les propres rêves de l'artiste, libres et vagabondes. Elles doivent pénétrer dans les rêves du modèle et s'assimiler en quelque sorte sa vie, son esprit, ce qu'il y a d'intime et de caché derrière ce mur épais et terrible qui est le front d'un homme. C'est dans le portrait que l'artiste donne la preuve la plus puissante de l'intensité de son génie et qu'il s'élève le plus haut dans la grande poésie et dans la grande observation de l'humanité. Je ne puis, malheureusement, que passer avec rapidité devant ces portraits. Il y aurait pourtant bien des études à faire, des impressions nouvelles à fixer, des comparaisons intéressantes à établir, des leçons à dégager, depuis La Tour jusqu'à Meissonnier, depuis Greuze jusqu'à Manet. David est représenté magnifiquement par 9 tableaux, parmi lesquels La mort de Marat, le portrait de Barbaroux et celui de Madame Chalgrin. Un audacieux chef-d'œuvre, si vivant, si vibrant, d'une étrangeté si originale, qu'on s'étonne que cette vision ait pu sortir de ses yeux aussi pleinement dégagée des formules étroites et des corrections guindées où s'attardait parfois son imagination. Je n'ai rien vu du baron Gérard, qui rappela le portrait d'Isabey, un des chefs-d'œuvre du Louvre. Et j'avoue que Greuze me laisse froid avec son maniérisme, ses grâces factices et banales. Son Napoléon est bien inférieur même à celui du baron Gros, et son Beaumarchais n'a jamais écrit le mariage de Figaro ni les mémoires, ses prodiges d'esprit. Que de choses délicates dans le portrait de Madame Parker et dans quelques-unes de ses inconnues que nous montre Josué Reynolds, dont le coloris violent n'éteint pas la grâce charmante. Voici les portraits de Ricard, un grand incompris, un de ces artistes prédestinés, comme Stendhal, à n'être apprécié que des esprits supérieurs, et qui, comme Stendhal, vous donne des impressions de vie profonde. Rien n'est beau, vivant, exquis, comme le portrait de Madame Zarvadi, dans la fraîcheur de sa beauté de jeune fille. Il faudrait les nommer tous. Et M. Trollon, et M. Heilbut, et M. Anatole de Laforge, dont les portraits sont des chefs-d'œuvre. Ricard était de ces délicats et profonds artistes à qui le temps apporte lentement, mais sûrement, la gloire. Il n'avait en lui rien de ce qu'il faut pour remuer l'âme vulgaire des foules, parce qu'il n'avait rien de banal, et qu'il méprisait les gros effets et les trompe-l'œil. Une pensée intime dans une forme exquise et discrète, de la force dans la grâce, de la recherche sans affectation ni contournement et un naturel instinct de l'élégance. Tel était Ricard, qui restera comme le meilleur peintre de portraits de ce siècle, au moins le plus personnel et celui qui dit le plus en peu de phrases. Il faut admirer aussi le portrait de M. Guizot par Baudry, à qui l'on doit tant de beaux portraits. Celui-là est véritablement admirable et vous donne une impression de vérité extraordinaire. Toute l'histoire des luttes parlementaires et politiques est contée dans cette physionomie blanchie et vieillissante, dont les chairs ridées tombent et se dessèchent, mais qui garde dans l'œil noir une fermeté sévère, un éclat sombre, une ardeur, une ambition farouche, et dans la lèvre mince et droite, une volonté impitoyable et une ironie perçante. C'est une belle œuvre, et qui restera dans les Louvres futurs pour faire oublier que M. Baudry a décoré l'opéra. J'ai revu L'hommage à Delacroix de Fantin Latour, une série de portraits admirables. Fantin Latour est certainement un des meilleurs peintres de figures d'aujourd'hui, celui qui donne le plus de force dans une facture sobre, simple et large, et qui est un des plus puissants coloristes avec les noirs et les gris. Il est juste de s'arrêter devant le portrait de M. Magnard par le peintre Bénard, un portrait très lumineux, d'une facture très personnelle, qu'on ne saurait trop louer, car M. Bénard est un ancien prix de Rome et son originalité s'est très vite et très nettement dégagée. C'est un jeune peintre du plus grand avenir. Que dire du portrait de M. Antonin Proust par Manet? N'est-il pas classé, depuis quelque temps, parmi les meilleurs de ce temps? Mais ce qui domine cette belle exposition, ce qui écrase ces chefs-d'œuvre, c'est le Napoléon d'Ingres, le Napoléon des Invalides. Jamais imagination plus grandiose ne sortit de la cervelle d'un artiste. Jamais ne surgit plus splendide évocation d'un homme qui fut un dieu et un dieu terrible. Ce n'est point le portrait de l'empereur que M. Ingres a fait. C'est la synthèse de l'Empire. C'est tout ce qu'il y a de formidable et de monstrueux, de surhumain dans cet homme et dans cet appareil que le grand artiste a chanté. Victor Hugo aussi l'a chanté en vers de flamme. Mais combien ces vers sublimes nous paraissent petits à côté de l'expression magnifique de cette peinture. Le peintre s'est élevé là où n'a pu atteindre le poète. Napoléon est assis droit sur son trône, un trône dont le dossier s'arrondit en couronne de lauriers d'or. Il est pâle, maigre, impassible, est terrible. Son masque est pareil au visage d'un dieu. Le front ceint de laurier, vêtu de la simarre d'hermine, enveloppé de la pourpre impériale, il tient en ses mains le sceptre du monde. La raideur majestueuse de sa pose a quelque chose d'hiératique, comme celle des statues. Il semble que la chair mortelle de l'homme déjà s'est transformée en un immortel marbre d'idole. Ses jambes, très écartées sous les plis de la pourpre, sont comme celles des divinités effroyables du Japon. Mais ce que l'on ne peut rendre, c'est tout le mystérieux et l'insondable, le tragique et le sacré de cette image. Je plains ceux qui ne seraient pas secoués d'émotion, étranglés d'admiration devant cette œuvre, la plus sublime, la plus mystérieuse qu'ait produite la peinture. Quel grand et merveilleux génie que celui d'Ingres! Mais il faut pour le comprendre une éducation artistique que malheureusement bien peu possède, même parmi les artistes. Ce coloriste complet a été le premier à nous donner les formules de ce qu'on appelle aujourd'hui l'impressionnisme, en disant à ses élèves « Regardez bien, mon chapeau noir n'est pas noir. » Oui. Ingres a été la couleur, comme il a été le dessin. Il a donné à la couleur l'harmonie qu'il fallait, et il a ramené le dessin à l'abstraction générale de la ligne. L'élégance, je ne dis pas le joli, l'élégance de la forme et de la ligne existe partout dans la nature, aussi bien dans un corps de nymphe que dans le torse voûté d'un maçon. Seulement, il faut l'y voir, Il faut l'en dégager, non pas en copiant servilement, comme font les naturalistes, mais en cherchant à abstraire des lignes celles qui interprètent, qui traduisent la nature, et dans sa vérité et dans son esprit. C'est tout le génie. Et M. Ingres avait tout ce génie. La France, 23 avril 1885.